Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine, aujourd'hui, nous allons parler du livre Le Mans, nos années 60. Pour cela, nous recevons Serge Bertin, docteur en ethnologie et spécialiste de notre histoire locale et surtout auteur de ce livre.
D'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout, faut pas jouer les riches, quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon, enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Alors, monsieur Bertin, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-vous.
Eh bien, je suis né en 41, donc j'ai plus de 80 ans, ce qui n'est pas facile à dire. Mais enfin, je suis né au Mans. J'ai été gamin dans différentes écoles publiques du quartier et j'ai poursuivi ma scolarité à l'école normale d'instituteur où je suis devenu instituteur en 1962. Depuis, j'ai rempli mon enseignement d'instituteur, puis de professeur de collège. Je suis devenu professeur de lycée à la suite d'études poursuivies à l'Université du Mans. Enfin, tout au moins à l'époque, ça n'appelait pas encore l'Université du Mans. Donc, je suis un pur produit Monceau. Comme disent les Monceaux, pour se moquer d'eux, je suis naturellement Monceau.
Et sinon, vous êtes aussi docteur en ethnologie. Qu'est-ce que cela signifie ?
Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais enfin, en 1959, je suis entré dans un groupe folklorique qui s'appelait la Gouline Sartoise. Là, j'ai rencontré d'ailleurs mon épouse. Et puis, j'ai fait du folklore, donc avec passion, avec enthousiasme, jusqu'en dans les années 80. Puis, je me suis aperçu que le folklore ne me satisfaisait plus dans la mesure où il ne répondait plus à mes interrogations pour de multiples raisons. Et je me suis dit que la meilleure façon, c'était de faire de l'ethnologie, c'est-à-dire de découvrir les traditions sous une allure, sous un aspect, avec des études plus approfondies, plus rigoureuses. Et c'est pourquoi j'ai abordé la science ethnographique, puis ethnologique, et j'ai passé une thèse de doctorat sur le thème du bal au Mans, vous voyez toujours la ville du Mans, comme phénomène d'intérêt ethnographique avec l'Université de Bretagne occidentale.
Et concrètement, comment vous êtes formé en tant que docteur ethnologue ?
L'ethnologie, ben, encore une fois, allez, je vais faire hurler des spécialistes, mais c'est un peu du folklore, mais de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on étudie des traditions, on étudie des pratiques locales, traditionnelles, mais non pas en retenant le côté le plus spectaculaire ou le plus facile, je veux dire, mais en essayant de voir comment tout ça s'organise, comment une société s'organise pour secréter ses fêtes, pour secréter ses rites. C'est une approche rigoureuse et je l'ai affinée au contact d'autres ethnologues et en particulier Michel Vallière qui a joué un rôle très important dans mon parcours, mais aussi des copains comme Yves Guillard, par exemple, au sein d'une autre association qui s'appelait l'Afrique AC.
Pourquoi vous êtes un spécialiste de notre histoire ?
Donc, spécialiste, encore une fois, le terme m'effraie un petit peu. Je suis simplement un chercheur. Je parle d'une histoire vécue, finalement. Je suis spécialiste, avec les guillemets que je souhaite mettre, parce que je vis ma ville. Je suis spécialiste de ma ville parce que je la vis depuis 80 ans. Chaque rue, je la connais. Mais je ne la connais pas seulement pour avoir arpenté les rues, découvert à chaque instant de nouvelles façades, mais je suis spécialiste parce que je l'étudie. Je la confronte à son passé. Donc, être spécialiste, c'est être passionné, mais c'est aussi être exigeant et curieux.
Et vous avez publié un livre. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de ce livre ?
Alors, le livre s'intitule « Le Mans, nos années 60 », ou plus exactement « Le Mans, nos années 1960 ». Et « À l'aube d'une ville nouvelle », c'est le sous-titre.
Et pourquoi justement écrire sur cette période ?
Alors, écrire sur cette période, d'abord, dans mes différentes recherches, en particulier lorsque j'avais travaillé sur ma thèse sur les ballons Mans, je m'étais aperçu qu'aux archives municipales du Mans, il y avait un trésor, c'est-à-dire des photos sur la ville de ces années-là. Et puis, je m'étais dit un jour, il faudra faire quelque chose. Et ce « il faudra faire quelque chose » m'est arrivé sous la forme d'une proposition. L'éditeur L'Étrave, une petite maison d'édition extrêmement active et dynamique et sympathique, l'éditeur m'a dit « j'avais fait un livre sur une autre ville de France et à partir de photos anciennes. Est-ce que tu as l'équivalent pour le Mans ?» Je dis « oui, bien sûr, aux archives municipales du Mans, il y a l'équivalent. » Et j'ai fouillé davantage, je me suis aperçu que pour les années 1960, il y avait pas moins de 10 000 photos qui étaient conservées sur la ville du Mans à cette période. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un photographe qui s'appelait Jean-Claude Vaillant et qui avait été embauché par la municipalité de l'époque en 1959 avec pour charge de photographier les lieux de la ville qui étaient susceptibles d'être modifiés. Ah, donc vous voyez, il y avait là une multitude de perspectives. J'avais trouvé le Graal, si je peux dire. Et donc sur ces 10 000 photos, on a sélectionné à peu près 200 clichés qui nous paraissaient les plus représentatifs. Voilà comment l'affaire s'est faite. Et en redécouvrant les photos, je recouvrais mon passé. Et là, la chose était merveilleuse. Les sensations étaient très fortes car je retrouvais des rues qui avaient disparu ou qui avaient été modifiées ou qui n'avaient pas changé du tout. Et j'espère que cette émotion, elle se retrouve pour les lecteurs de cet ouvrage parce que c'est pas de la nostalgie, c'est tout autre chose que de la nostalgie. C'est une drôle d'impression.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période ?
Alors, cette période, justement, et c'est tout le sens du sous-titre de l'ouvrage, « À l'aube d'une ville nouvelle », eh bien, c'est une période de vitalité véritablement débordante. C'est une ville qui vient de franchir, depuis 1954, le cap des 100 000 habitants. Vous voyez, 100 000 habitants un peu dépassés, mais de quelques centaines. Et puis qui va, dans les années 70, atteindre presque 150 000 habitants. Donc, vous voyez, il y a une explosion démographique. Et corollaire de cette explosion démographique, eh bien, il faut trouver des emplois. Et là, une industrialisation s'organise à partir de l'exportation des industries de la région parisienne. Il y a une espèce de décentralisation industrielle qui se fait. Et puis, il faut trouver des logements. Et donc, là, de nouveaux quartiers naissent. Il faut que cette population circule. De nouveaux axes sont tracés. Voilà, c'est une ville, j'hésite à employer le terme, mais on pourrait presque dire une ville champignon, dans la mesure où elle croît à une vitesse folle sous tous ses aspects.
Et oui, on l'aura compris, en effet, hein, les quartiers qui disparaissent et la circulation qui est bien sûr favorisée. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion.
Baby.
Alors au niveau de, bien sûr, ce livre, hein, vous nous l'avez dit, il est illustré, vous avez fait des recherches, vous avez trouvé pas mal de photos. Comment ça s'est passé, par contre, l'écriture de celui-ci ?
Oh, c'était jouissif. L'écriture, c'était jouissif parce que, d'abord, dans cet ouvrage, il y a, bien sûr, avant tout des photos, c'est l'essentiel. Il y a, avant chaque chapitre, un texte introductif que là, j'ai totalement rédigé, en essayant justement de montrer tous les instants de la respiration d'une ville selon différents thèmes. Une ville qui s'ouvre à la culture, une ville qui s'ouvre à l'industrie, une ville qui se couvre de chantiers. Voilà des textes que j'ai rédigés avec amour. Et puis, il y a, et c'est le plus important, sous chaque cliché, un témoignage. Et ce témoignage, c'est celui d'une mancelle ou d'un manceau, ou parfois, ce témoignage, c'est un texte, c'est l'extrait d'un discours d'un homme politique ou d'une femme politique. Bref, ce sont des manceaux qui commentent les photos au travers de cet ouvrage. Et les témoins, je les ai trouvés dans mon environnement et j'ai eu l'occasion de découvrir des personnalités assez exceptionnelles qui me racontaient leur vécu, elles aussi, de la ville d'autrefois.
Et concrètement, comment s'est passé le travail de création de ce livre ? Combien de temps vous avez mis ? Est-ce que vous avez mis en place quelques étapes ?
La première étape, c'était le choix des photos. Vous imaginez que 10 000 photos, ça se voit pas en 5 minutes. Il a fallu donc que je les découvre, que je les photographie, que je les envoie à l'éditeur, mais avec mes propres photos qui étaient forcément incorrectes. Et il a fait un travail colossal. Il est revenu aux archives municipales avec un appareil tout à fait performant pour photographier des clichés sur papier qui ne faisaient pas plus de 4-5 cm de côté, et il en a tiré des photos d'une excellente qualité. Le tout, donc vous voyez, un gros travail sur le terrain, le tout facilité par Nadia Le Gall et toute son équipe qui travaille aux archives municipales. À Nadia Le Gall et à son équipe, je souhaite vraiment rendre un hommage vibrant parce que sans elle et l'équipe, rien n'aurait été possible. Puis après, quand les clichés ont été photographiés, eh bien, il a fallu que je parte à la pêche auprès des témoins que je connaissais, ou dont on m'avait donné des coordonnées par un réseau amical. Les réseaux amicaux, vous savez que c'est essentiel. Et puis c'est comme ça que j'ai obtenu tous ces témoignages. Ça s'est fait, allez, je dirais en 6 mois, ça s'est fait très rapidement. Pour un livre, c'est peut-être l'ouvrage qui était le plus vite fait, mais porté par un enthousiasme de l'éditeur, de l'équipe des archives municipales, et puis mon propre enthousiasme, sachant que j'étais évidemment, comme toujours, soutenu merveilleusement par mon épouse. Parce que, comme je vous dis là, c'est le travail d'un couple.
Et quel est le plus, selon vous, d'apporter des témoignages dans ce livre ? Quel est l'avantage ?
Bon, je reconnais bien, il y a un peu de nostalgie pour certains. C'est vrai que c'était ça, c'est vrai que quand il y avait du verglas, la ville était bloquée. C'est vrai qu'il y a eu des inondations catastrophiques dans un quartier, soit au sud, soit à l'ouest de la ville. Donc, nostalgie pour les plus anciens. Découverte, et j'ai eu des témoignages, découverte de lecteurs jeunes, qui m'ont dit « Ah mais j'imaginais pas que ça se présentait comme ça ». Donc vous voyez, à la fois nostalgie, à la fois découverte pour les plus jeunes, et puis le plaisir presque physique de feuilleter des photos, des pages, et de se promener avec le temps par ces documents. Et c'est aussi un élément important. Et puis enfin, je voudrais qu'il y a l'intérêt de la découverte du passé d'une ville. Le Mans est ce qu'il est grâce à ce qui s'est fait pour le meilleur et pour le pire. Car dans les années 60, j'ai assisté au meilleur et au pire, avec l'accord unanime de toute la population. On a souvent tendance à jeter le discrédit sur un certain nombre de maires dont on dit qu'ils ont fait des bêtises. La population était d'accord. Et quand ils ont fait quelque chose de bien, ben, ma foi, c'est naturel.
Et si l'on souhaite justement lire ce livre « Le Mans aux années 60 », où peut-on le retrouver ?
Eh bien, chez tous les bons libraires, les libraires du Mans, mais aussi, il suffit, en cas de nécessité, de demander à l'éditeur l'étrave sur Internet. Il doit, je suppose, pouvoir communiquer. Mais enfin, les libraires ont tous réalimenté, parce que j'ai même eu un appel d'un libraire me disant « Est-ce que vous pouvez me trouver des livres ? J'en manque. » Donc, les libraires du centre-ville et puis même de la périphérie peuvent certainement vous en fournir si vous désirez acquérir cet ouvrage.
Et est-ce que vous avez des projets en perspective, peut-être des projets d'écriture d'un autre livre ?
Alors, l'écriture, oui, peut-être découvrir un autre ouvrage tout à fait différent, qui a été rédigé depuis un petit bout de temps déjà, mais avec une équipe. Voilà, quelques années, nous avions, avec des amis, une douzaine de copains et de copines, fait un livre qui s'appelait « La Sarthe insolite et secrète ». et nous avons récidivé et nous allons sortir le 24 juin exactement, officiellement, un livre qui s'intitulera « Les lieux de légende en Sarthe ». C'est de très belles photos, mais aussi on raconte les légendes, mais non pas hors sol, si je peux dire, mais on place les légendes dans le contexte, dans le cadre géographique où elles étaient racontées. Donc là, c'est une démarche originale. Et puis pour mois de septembre, un ouvrage sur le patois, le petit manuel pour parler sarthois, pour les ceux qui vont comprendre en rhin, c'est le titre à peu près. Et puis au mois de novembre, un autre petit ouvrage, mais là, je vous en reparlerai, ce sera quelque chose de délicieux.
Un mot à rajouter ?
C'est follement excitant d'écrire et je remercie vraiment tous les éditeurs qui me font confiance. J'ai une chance extraordinaire, c'est que je peux écrire et j'ai eu de la chance dans ma vie.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que sale d'un banque, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme un carême, et pour autant, l'important, c'est la rose, l'important. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose.
Alors, Monsieur Bertin, je vous remercie. J'espère que nos auditeurs achèteront votre livre. En effet, avec cet échange, ils auront compris hein, toute l'histoire qu'on peut apprendre sur les années 60 au Mans. Je vous dis à bientôt.
Bien, d'accord.
Au revoir.
Au revoir.
Votre magazine Au bout de la plume est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.